En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien, nous allons reprendre.
Ce n'est pas trop inconfortable.
J'ai même la date de la bataille. Je peux aller au pour demain.
Alors, cet après-midi. Cet après-midi, toujours consacré. On n'arrive plus à la gauche.
S'il vous plaît.
Merci Jean-Yves. Donc cet après-midi, toujours consacré à la thématique manœuvre stratégique et géographie. Et nous allons entendre donc deux intervenants maintenant sur cette même question. Nicolas Todorov, tout d'abord. Historien qui a soutenu une thèse de géographie historique sur la thématique franchir la Manche, les projets de conquête des îles britanniques depuis le XVIIe siècle. Et ensuite, nous écouterons Michael Aubou, docteur en géographie, thèse remarquée d'ailleurs par le prix de l'armée de l'air, capitaine au centre d'études stratégiques aérospatiales au ministère de la Défense, et il interviendra sur la guerre depuis le ciel, une géographie militaire aérienne. Donc je donne tout de suite la parole à Nicolas Todorov.
Donc voilà. Donc bah on change après donc la montagne, on change le milieu. Hein, on entre dans le milieu aquatique en quelque sorte, au marin, et on touche à un sujet relativement sensible, c'est-à-dire les tentatives ou projets de débarquement continentaux en Angleterre ou aux îles britanniques. Hein. Évidemment, il y en a eu depuis 2000 ans, depuis César. Je me limite à ces projets depuis qui ont eu lieu ou qui ont été conçus depuis le XVIIe siècle à peu près, donc depuis ce qu'on appelle le début de la Seconde Guerre de Cent Ans, ce qu'on a appelé ainsi. Et donc, il s'agit d'une limite qui pourrait être considérée comme une barrière, un obstacle. Longue de 500 km, large au maximum, à sa plus grande largeur, de 248 km, et au minimum de 34 km au Pas-de-Calais. Elle est devenue la frontière entre deux États territoriaux qui étaient au XVIIIe et une partie du XIXe siècle, les deux premières puissances économiques mondiales. Dès ce siècle-là, et ce matin ou tout à l'heure, on a parlé de la fixation ou de la détermination des frontières, de la délimitation des frontières. Dès le XVIIIe siècle, donc d'après les travaux de Renaud Morieux, s'est développée donc cette manche comme frontière entre deux États, entre deux royaumes. L'histoire ou la rhétorique, en tout cas, en a fait une sorte de frontière naturelle. On connaît le problème de la frontière ou des frontières naturelles, qui a priori sont toujours humaines à la base. Mais il s'agirait, comme tout à l'heure pour les montagnes, de s'interroger en quoi cela a constitué un obstacle du côté français ou continental, comment on a cherché à la contourner, mais il s'agit aussi de s'interroger sur les véritables intentions de ces projets multiples qui ont été conçus. Parce que là-dessus, il y a eu un certain nombre de débats. Je vais, par conséquent, commencer un peu, je vais faire un peu comme Castex, je vais partir d'une approche stratégique, donc plus générale, pour évoquer ensuite les différents projets ou les débats qu'il y a au sujet de leur réalité ou de leur sincérité, pour enfin voir en quoi cela a pu provoquer ou entraîner des aménagements des fortifications, des aménagements portuaires, etc. Donc, d'abord, quelques continuités et ruptures géostratégiques depuis la fin du XVIIe siècle. D'abord, on part toujours du principe, d'une certaine faiblesse relative des armées britanniques, des armées de terre britanniques, comparées aux armées de leurs adversaires continentaux. Depuis le XVIIe siècle, l'Angleterre a émergé comme une puissance économique relayant la puissance hollandaise qui a connu son apogée au XVIIe siècle. Et s'affirmant comme la première puissance navale au début du XVIIIe siècle, l'Angleterre, c'est-à-dire le Royaume-Uni, se livre avec la France, ce qu'il est convenu d'appeler la seconde guerre de Cent Ans. Sa victoire à Waterloo en 1815 consacre sa suprématie sur, disons, maritime pendant un siècle, qui soutient son développement industriel et son expansion coloniale. Mais cette puissance va de pair avec une relative faiblesse réelle ou supposée de son armée de terre face à ses adversaires ou rivaux continentaux qui changent au cours de la période d'études. Bon, mais c'est essentiellement la France. Cette relative faiblesse militaire s'explique en grande partie par son poids démographique. Bon, il y a d'autres facteurs, mais les hommes diplomates et militaires et géographes admettent l'existence d'une certaine corrélation entre le nombre d'habitants et la force potentielle militaire d'un État. En tout cas, jusqu'au développement des technologies plus récentes. Et finalement, quand on compare, quand on met en corrélation le poids démographique et les effectifs des armées des différentes époques, on constate qu'il y a une corrélation quand même relativement impressionnante. Malgré donc sa croissance démographique, qu'a connue l'Angleterre depuis le XVIIe siècle, elle s'est trouvée face à des adversaires continentaux pesant d'un poids démographique plus lourd qu'elle. Hein. L'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse sont peuplées de moins de 10 millions d'habitants vers 1700. La France, à cette époque-là, en a environ 21 millions, ou 20 millions, donc, ce qui fait quand même le double. Sous Napoléon, la France, dans ses frontières de 1792, a une population de 29,5 millions, et son empire, à son apogée, en a 43,5 millions, à peu près. L'Angleterre, à cette époque-là, ou disons, tout ce qui est contrôlé en Europe par l'Angleterre, ou disons, pour être plus précis, les îles britanniques, en incluant l'Irlande, ont 18 millions d'habitants. Donc, cette faiblesse relative démographique se poursuit après avec l'apparition d'une autre puissance d'Europe, en Europe centrale, qui sera l'Allemagne de Guillaume Ier et Guillaume II. Ensuite, donc, même l'Angleterre victorienne ne fait pas le poids démographiquement que par rapport à l'Allemagne de cette époque-là. Bon. Sur le plan militaire, ça se retrouve parfaitement. Au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, entre 1689 et 1697, les effectifs de l'armée française, bon, d'après les différentes estimations données par les historiens militaires, se lèvent entre 340 000 et 420 000 hommes, alors que l'armée permanente anglaise avait été portée à 40 000 entre 1685 et 1688. Mais n'atteignait que 30 000 au début de la guerre de succession d'Espagne. Bon, 75 000 en 1711, ce qui fait quand même une infériorité numérique nette. L'importance numérique de l'armée britannique s'accroît au cours de la période, donc au cours du XVIIIe siècle, et surtout pendant la période napoléonienne, en nombre absolu et relativement. Et le Royaume-Uni finit par disposer d'une armée de terre digne d'une grande puissance continentale, mais l'infériorité numérique face à son adversaire du continent principal demeure nette. Pendant les guerres avec la France, révolutionnaire et consulaire et impériale, l'armée de terre britannique dépasse 330 000 hommes. Il faut dire qu'une centaine de 100 000 hommes à peu près sont déployés dans l'outre-mer. Mais cela hisse tout de même la monarchie britannique au niveau des grandes puissances continentales comme la Prusse en termes d'ordre de grandeur d'avant 1806 ou l'Autriche. Mais il faut tout de même remarquer que Napoléon, à ce moment-là, pour la France, dispose de 600 000 hommes directement, sans compter ses alliés plus ou moins fidèles. Même si le gouvernement britannique met en place une sorte de volontariat aux milices que Napoléon considère comme étant de faible valeur militaire. Bon. Mais cette relative faiblesse britannique, du point de vue de l'armée de terre, contraste avec une supériorité relative de sa marine, au moins pendant la plus grande partie de la période. Donc après le règne de Louis XIV, la marine britannique réussit à se hisser au premier rang européen, même s'il faut le dire, cela n'a été favorisé que par le désintérêt ou en tout cas le manque de compétition navale de ses adversaires. Hein? En 1715, la marine française ou royale a encore 60 navires de ligne. En 1720, uniquement ou plus que 20, hein, d'après certains chiffres que j'ai trouvés. Cependant, le traumatisme de la guerre de 7 ans conduit les gouvernements de Louis XIV, puis plus tard de Louis XVI, à mettre en œuvre un programme de construction navale et même d'entraînement de la marine par la pratique des escadres d'évolution. Des efforts de reconstitution de la marine furent aussi entrepris par l'Espagne, qui se retrouve donc alliée après donc, la guerre de succession, à partir du milieu du siècle, on va dire. D'une manière générale, on a pu observer un phénomène de navalisation de l'Europe pendant les dernières décennies de l'Ancien Régime, en tout cas avant 1789. Cette course à l'armement naval, le terme n'est pas de moi, risque donc de mettre en cause la suprématie britannique. Cependant, en 1777, l'Angleterre aurait disposé de 160 vaisseaux de ligne, qui forment donc la colonne vertébrale des marines de l'époque, la France de 71 et l'Espagne de 59. Cela montre aussi combien peu d'intérêt, ou disons, à quel point on a accordé peu de crédit à l'histoire des frontières naturelles, parce que la Manche pouvait bien être une frontière à condition d'avoir une marine supérieure ou avoir une maîtrise de la mer par la marine. Mais surtout, ce qui montre la méfiance à l'égard d'une frontière ou barrière naturelle, c'est la crainte de l'apparition d'une puissance hégémonique en Europe par la diplomatie ou que la diplomatie britannique a cherché à contrecarrer pendant la période. D'abord, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en échec ou tenir en échec les adversaires les plus dangereux par une diplomatie de la « balance of powers », donc de l'équilibre des puissances, et qui a trouvé bien des prolongements après. Si l'affrontement franco-britannique est généralement présenté comme le choc de deux impérialismes, le souci d'anglais d'empêcher l'affirmation d'une grande puissance continentale hégémonique survit largement à la chute de Napoléon, alors que d'autres puissances prennent le relais de la France. Au congrès de Vienne, cette politique se manifeste par l'entente, entre guillemets, austro-franco-britannique, donc avec les Français qui venaient juste d'être battus et qui avaient été l'adversaire ou l'ennemi par excellence, motivé par l'inquiétude d'une hégémonie russe appuyée sur la Prusse, qui était le bras prolongé, considéré comme le bras prolongé de la Russie. De même, la neutralité britannique en 1870 aurait été inspirée par la crainte provoquée par les rumeurs savamment distillées par Bismarck de voir Napoléon III mettre la main sur la Belgique, et donc d'Anvers. L'émergence d'un géant démographique et économique militaire au cœur de l'Europe après 1871 est à l'origine du rapprochement franco-britannique initié par Joseph Chamberlain, qui aboutit à ce qu'on appelle l'entente cordiale. Après la défaite de l'Allemagne en 1918, la politique britannique vise à empêcher une hégémonie française en évitant un affaiblissement trop important de l'Allemagne. Après la fin d'une menace allemande en 1945, l'inquiétude britannique de voir s'étendre l'hégémonie soviétique à l'Europe se manifeste par des activités de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, cherchant à sensibiliser les États-Unis et à consolider l'Europe occidentale par un rapprochement très, très novateur, en quelque sorte, ou précurseur, franco-allemand, ce qu'il préconise dans son discours de Zurich en septembre 1946. Donc, cette politique britannique montre bel et bien à quel point on se fiait à la supériorité navale et à quel point on misait sur une certaine configuration diplomatique et militaire en Europe. Ce qui veut dire que, d'une certaine façon, l'équilibre européen, ou en tout cas la configuration ou la constellation politique en Europe, jouait un rôle déterminant par rapport ou pour la politique britannique. Napoléon a formulé ça, ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte de quasi-déterminisme continental français, par cette formule en 1810, en temps de grande guerre, la France ne peut rien sur mer. En temps de grande guerre, il entend par là une guerre contre l'Autriche qui venait de battre en 1809 à Wagram. Et ça, il dit qu'en temps de grande... Par contre, en temps de paix continentale, on est en mesure de développer ses moyens. Cette opinion, Napoléon l'a exprimée et reposait en fait sur une expérience faite par lui-même depuis 1806 ou plus tard. En réalité, l'incapacité de la France à mener une guerre continentale et en même temps à financer la reconstitution, la reconstruction et l'entretien du marine, capable de rivaliser avec celle de ses ennemis, était un fait connu depuis longtemps. Et déjà, Louis XIV s'était vu confronté pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg à la douloureuse nécessité de réduire ses ambitions maritimes face à la menace continentale. Le passage à la guerre à la guerre de course à partir de 1693-14 s'explique donc essentiellement par des problèmes de financement d'une flotte dont l'entretien est peut-être plus coûteux que sa construction. Et contrairement à l'époque napoléonienne où chaque nouvelle guerre continentale conduit à une coupe dans le budget de la marine, ou en tout cas à une réduction des dépenses initialement prévues, les ministres de Louis XIV obtiennent néanmoins des fonds importants après la Hougue, défaite en 1694, pour maintenir les effectifs à un niveau élevé. Mais là n'était pas forcément la question. Pour remporter une victoire décisive par la marine, il ne suffisait certainement pas de maintenir les effectifs. Il était nécessaire de les augmenter encore substantiellement pour avoir des chances plus sûres de contrecarrer l'action des flottes anglaises et hollandaises réunies. En effet, en 1695, la marine de Louis XIV aligne 108 vaisseaux de ligne, ses adversaires réunis 185. En 1700, de nouveau, la plus nombreuse individuellement, la royale française, compte 118 vaisseaux de ligne, les marines anglaises et hollandaises réunies 201. De ce point de vue, la priorité de la guerre continentale ne faisait pas de doute. Pour l'historiographie britannique, le contexte international a donc toujours été un facteur non négligeable à prendre en compte pour expliquer les défaites ou victoires françaises. La guerre d'indépendance américaine, soldat de la défaite des Anglais qui n'avaient pas réussi à monter une coalition continentale contre ses ennemis. Certains historiens britanniques estiment tout de même que la guerre a perdu au moment où les troupes anglaises ont capitulé devant Washington. Mais un lien entre les rythmes lents des constructions navales et des guerres continentales avait bien été constaté aussi par les travaux français comme ceux de Martin Assera. Il faut se rendre compte que même lorsqu'il se trouve au fait de sa puissance, donc à ce moment-là, comme le montre cette carte, entre 1810 et 1812, le Grand Empire de l'Union est loin d'exercer une domination effective et réelle sur le continent européen. La défection potentielle d'un révélait la fragilité de la prépondérance française. Tandis qu'une alliance entre deux grandes puissances opposée à un bloc de deux autres ne pourrait conduire qu'une guerre longue, continentale longue, coûteuse et donc improbable. Par conséquent, la politique de Napoléon a toujours consisté à trouver parmi les grandes puissances européennes un allié durable et solide, à la manière dont le pacte de la famille avait donc rapproché les Bourbons. Plusieurs historiens ont fait de la modernité économique britannique, et surtout financière, un facteur explicatif de la victoire anglaise dans cette guerre de 100 ans, ou la seconde guerre de 100 ans. Ils auraient dépensé trois fois plus d'argent pour la marine que les Français, etc. Mais quand on met en balance la puissance économique française en additionnant tout ce que les alliés et les vassaux de la France pouvaient apporter, il y a une nette supériorité française. Sauf qu'elle était facilement mise en échec par la défection d'un grand allié tel que la Russie en 1811-12 ou l'Autriche en 1809, qui en tant que grande puissance qui pesait dans l'équilibre européen n'avait pas disparu. Bon. Donc, quelles étaient donc les stratégies continentales appliquées? Bon, d'abord, il y a un certain nombre de projets. Pardon, c'était pas. Est-ce que j'ai une diapo? Voilà. Donc là, le général Forêt avait écrit un ouvrage sur les débarquements en Angleterre, mais il n'est pas limité au XVIIe et XIXe siècle, mais est remonté jusqu'à César. J'ai juste relevé ici les points de débarquement officiels ou en rouge, officiels et officieux, qui étaient prévus par les différents adversaires ou ennemis continentaux de la Grande-Bretagne. Donc je ne parle pas de François Ier, parce que c'est avant, et je ne parle pas non plus de César, etc., de Claude, etc. Hein? Bon, donc, quel projet? Donc, il y a d'abord, parmi les projets les plus notables, il y a donc les différents débarquements en Angleterre, en Irlande, pardon, en 1689, de Jacques II, qui avait été chassé par la Glorious Revolution en Angleterre. Il y a ensuite cette tentative de débarquement associée à la victoire française de Béziers, qui est donc une prononciation un peu française d'une localité anglaise, Pevensey. Ensuite, un débarquement prévu à Saint-Vaast-la-Hougue, donc sur l'escadre venue de Brest, et la cavalerie devait être embarquée la cavalerie et l'artillerie devaient être embarquées au Havre. Mais là, il y a beaucoup de doutes sur ces projets, étant donné que Tourville était chargé d'attaquer alors qu'il était, en nombre inférieur. Bon, il y a d'autres projets ensuite, en 1708, à partir de Dunkerque, et surtout donc, les projets dans la seconde moitié du siècle, avec les projets du maréchal de Saxe, ensuite les projets de la guerre de 7 ans, de 1759, de 1760, et surtout les projets de Breuil pendant la guerre d'indépendance américaine. Je ne comptais pas vous faire ici le détail, parce que ça serait un peu fastidieux et un peu long. Il faut juste dire qu'à partir de la seconde moitié du siècle, à l'époque de Louis XIV, la question ne se pose pas. Je vais trop vite, trop lent ?
Non, merci, Nicolas.
Les projets, donc, en fait, quand on regarde un peu l'historiographie de ces projets, on aperçoit qu'il y a un gros doute sur les véritables intentions de la plupart de ces projets. Ainsi, par exemple, l'historien des projets et tentatives de débarquement aux îles britanniques, donc sous la Révolution et l'Empire, donc jusqu'en 1805, c'est le colonel Édouard Desbrières. Il doute que Napoléon ait jamais voulu descendre en Angleterre. Sa correspondance, ainsi l'écrit, des années 1804 et 5 est riche de contradictions. Après avoir envisagé en 1804 un déblocage général des ports de l'océan par l'escadre de Toulon et veut tenter une invasion en Irlande par l'escadre de Brest, des opérations contre Sainte-Hélène et la Guyane, par celle de Toulon, ainsi que les Antilles, etc. Puis, après l'entrée en guerre de l'Espagne à ses côtés, il reprend le projet des descente en Angleterre, ce qui n'empêche pas, à la fin de 1804, de projeter une expédition vers l'Inde, partant de Brest avec 30 000 hommes, etc., etc. Ainsi, est-il permis, écrit des barrières, au terme du seul travail d'érudition menée dans un grand ouvrage savant et qu'il y en a pour l'ensemble des guerres napoléoniennes, pour l'expédition de l'Égypte, de la Jonquière, etc., de douter du but réel de ces préparatifs, quelques longs et dispendieux qu'ils aient pu être. Éventail pour l'Angleterre, avantage de politique intérieure et continentale, avoir une grosse armée prête, peut-être est-ce tout ce que Napoléon voulait réellement. Bon, je dois dire que je vais un peu plus rapidement parce qu'apparemment j'ai encore passé beaucoup de temps. On pourrait trouver les mêmes doutes sur bien d'autres projets antérieurs de 1759 avec le camp de Vossieux. On trouve les mêmes doutes pour les projets pendant la guerre d'indépendance américaine. Quel était l'objectif réel et véritable de cela? un historien britannique qui a de renom, donc Nicholas Rogers, auteur d'un ouvrage sur la marine britannique qui fait autorité, The Wooden World, et donc peu suspect d'être un détracteur de la Navy et de son pays, relève les faiblesses de la marine britannique et écrit au sujet des concentrations de troupes françaises dans la Manche. Néanmoins, la menace d'une invasion devait être prise au sérieux et la facilité avec laquelle les Français pouvaient immobiliser les forces navales importantes simplement en rassemblant des troupes sur les côtes de la Manche fut l'une des faiblesses réelles de la marine britannique au XVIIIe siècle. Dépourvue d'une armée efficace, ou du moins croyant d'en être dépourvue, plusieurs gouvernements successifs, dont britanniques, retinrent une grande partie de la flotte dans la Manche dans des moments de crise, alors que les Français étaient capables de consacrer toutes leurs forces navales disponibles à l'offensive et souvent de prendre l'initiative face à un ennemi numériquement supérieur. Il resterait à démontrer que les décideurs français ont effectivement raisonné ainsi. Bon, il y a dans la correspondance du ministre de la Marine avec Napoléon en 1811 un document intitulé « Observations sur la flottille » dont vous avez début tout à l'heure et dans laquelle on peut lire « La France est obligée d'avoir 200 000 hommes qu'elle ne peut envoyer ni aux Indes, ni en Guyane, ni en Italie. Quelque chose qui arrive, il faut toujours qu'elle soit en état de réunir sur l'Escaut ou le Rhin 200 000 hommes en cas de guerre avec l'Angleterre. C'est une force inutile, mais l'existence d'une flottille, la met en jeu. L'expérience prouve que 40 000 hommes campés sur les hauteurs de Boulogne et une flottille obligent l'ennemi à former des camps, à faire des fortifications de toute espèce et à tenir en réserve aux dunes une escadre prête à s'opposer à celle de Brest, de Toulon ou de l'Escaut qui, échappant à leur croisière, viendrait à se présenter dans ces parages. Bon, la même chose, donc ça c'est une note qui a certainement été dictée par Napoléon, mais n'a pas été dictée en 1811, elle n'a été reprise qu'après, dans la mesure où dans ce mémoire figure, ou dans cette note figure des informations qui indiquent que ça doit être antérieur à la création de la flottille de Boulogne en 1803. La même idée est énoncée dans la correspondance de Napoléon. Plus tard, en septembre 1805, Ce n'est pas pour justifier la défaite de Trafalgar, parce que Trafalgar, en septembre 1805, n'a pas encore eu lieu. Hein? Ce qui n'empêche pas que les amiraux chargés d'exécuter des opérations ou de préparer les flottilles ou différentes flottilles mises en place dans la Manche aient cru à la réalité, à la sincérité des projets. Là, on trouve le qui était chargé de la réorganisation du camp de Boulogne en 1811. En février 1812, il remet un mémoire à Napoléon sur la descente en Angleterre et développe ici les différentes opérations de diversion censées attirer les Anglais vers l'outre-mer, etc. Donc, il y a un certain nombre d'amiraux, et non pas de terriens, d'officiers de l'armée de terre, qui y croyaient et qui étaient convaincus de la réalité de le faire, de réaliser ces débarquements. Bon. En tout cas, cette idée a été expliquée, a été conceptualisée, mais a été généralisée, ce que j'appelais donc le principe de la flottille de Boulogne, immobiliser les forces navales et terrestres britanniques dans la Manche, a été élargi et étendu à d'autres points comme le détroit de Messine où le roi de Naples, Dora, est chargé d'organiser un camp pour débarquer en Sicile. Même chose sur l'île de Corse, face à l'île de Sardaigne, on prépare un débarquement en 1811. Même chose avec la flottille qui est mise en place dans l'embouchure de l'Elbe face à l'île d'Aigolande contrôlée par les Anglais. Il s'agit en fait d'immobiliser une bonne partie des forces anglaises. Bon, évidemment, il y a un autre projet où, au départ, je croyais qu'on pouvait apporter quelque chose, mais s'il y a un projet qui n'était pas... où on peut clairement penser qu'il n'y a jamais eu de volonté réelle de débarquer en Angleterre, où ça a été dit que c'était un objectif d'impression, disons, de persuasion politique, c'était le projet donc Hitler sur l'opération Zeeleuwe où la plupart des historiens estiment que, ou même des amiraux allemands pensaient qu'ils n'avaient jamais envie d'y aller, hein, malgré l'effort déployé. Mais on a bien vu que. Mais là, on ne voit pas trop l'objectif de que a exposé Napoléon dans sa correspondance. Donc, je suis un peu passé sur ces moyens de débarquer, hein, donc sur les flottilles, ça a été abondamment étudié, si vous avez des remarques, ou je veux bien en parler, mais je passerai là-dessus. En revanche, je voulais passer à la troisième partie, un peu la partie des aménagements. Qu'est-ce qui a été fait? Bon, si on reprend là rapidement la carte des fortifications de Vauban et des forteresses et fortifications remaniées, on a déjà, comme Renaud Morieux l'a fait, observé que bah, finalement la Manche reste relativement, disons, elle est moins fortifiée que bien d'autres frontières, notamment continentales, terrestres. Et étudier, quand on étudie donc les mémoires des ingénieurs militaires au sujet des fortifications de la Manche, bah, on observe tout de même un accroissement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Qui peut être lié aux guerres. Il a expliqué ça aussi par le développement d'une guerre plus d'outre-mer, donc notamment en profit des ports ou des fortifications occidentales, de la Manche occidentale. Mais il me semble aussi qu'il faut tenir compte des fortifications faites pour des rassemblements de troupes ou de concentration de matériel naval. Parce qu'à ce moment-là, ça s'arrête avant la Révolution française, mais la marine française ne disposait pas de véritable port capable d'accueillir des vaisseaux de ligne, donc avec un tirant d'eau plus important de 8 mètres à 10 mètres, jusqu'à la création de Cherbourg par Napoléon. Donc, Napoléon s'emploie donc à mettre en place Cherbourg comme port, malgré les difficultés d'approvisionnement qui se posait aussi pour Brest en termes de matériel de bois, hein, de matériel naval, de munitions navales et surtout aussi de chaînes. Et donc, pour l'ensemble des aménagements, il faut dire que ça n'a pas forcément eu, ou l'impression qu'on a eue, c'était une question de manque de continuité, comme on l'a vu tout à l'heure aussi dans d'autres projets. Ça a été toujours fait par à coup, quand il y avait une tension navale. On s'intéresse à Boulogne pendant la tension franco-britannique en 1840. Il est vrai que la plupart des fortifications de Boulogne n'ont pas été mises en place jusqu'en 1805. Ici, j'avais fait une carte où on voit les fortifications avec les lettres, avec les caractères A, C ou A et E, pardon, qui ont été mises en place après 1805, donc après les projets de débarquement. Connus, on va dire. Je ne parle pas de ceux qui ont été faits après. Donc, et tout ça, il a clairement expliqué, c'est pour empêcher que les Anglais attaquent ces ports pour détruire, par exemple, la flottille, parce qu'elle est là, elle joue un rôle. Et la même chose est vraie pour d'autres ports. C'est clairement expliqué là-dessus au sujet des fortifications à opérer à Cherbourg. Si l'ennemi débarque avec une artillerie suffisante, il s'emparera en 10 jours des forts et il sera alors à même de bombarder le port. Un bombardement sera un grand mal. Mais si l'ennemi est obligé de s'en tenir là, il aura manqué son opération. Ce n'est pas pour brûler les magasins et faire un dommage de 4 à 5 millions que l'ennemi aura conçu une opération hasardeuse. Son but sera d'enlever ou de brûler avec la torche 18 vaisseaux de ligne, de brûler les magasins, de détruire le port. C'est contre ce second but de l'ennemi qu'il faut employer tous les moyens de l'art. Il convient qu'on ne peut empêcher le bombardement si l'ennemi se trouve supérieur pendant 15 jours. Il faut faire une enceinte avec des contre-gardes et tous les moyens de l'art nécessaires pour qu'elle se défende au moins pendant 15 jours. Pendant 15 jours, c'est très important. Il est probable que l'ennemi le soit pendant 15 jours. Il est probable qu'il ne le laissera pas. Donc, raisonnement de temps qu'on fortifie et ça a été énoncé donc en 1810. Donc on craint donc pas une invasion, hein, vu le rapport de force navale, terrestre pardon, mais on fortifie en fonction du matériel naval à l'intérieur des ports. Et cela a été donc observé aussi par Xavier Boniface pour Boulogne pour l'après 1815. Si je résume donc très rapidement la question, ou répond à la question de la problématique des frontières naturelles ou pas, si la Manche fut donc difficile à franchir en partant du continent pendant la période d'étude, ce n'était en guerre à cause d'un obstacle physique infranchissable, mais à cause de l'impossibilité des puissances continentales à se doter d'une puissance capable de défier la Royal Navy, dont la supériorité numérique sur des adversaires continentaux fut une constante période, au moins à partir de 1720, et cette incapacité n'était due ni à une vocation naturelle britannique pour la mer, ni à une supériorité d'un modèle anglais quelconque, mais résultait de l'impossibilité de financer à la fois une marine et une armée de terre capable de tenir en échec les adversaires continentaux.
Bien, merci beaucoup Nicolas. Je propose de passer tout de suite à l'intervention car je crois que M. Bechler doit nous quitter à 17h15. Donc ça ne nous empêchera pas peut-être de continuer, mais on préférait terminer tous ensemble. Donc je vais donner la parole tout de suite à Michael Aubou.
Julien, pointeur laser. Je vais commencer.
Merci, il n'y a plus rien.
Hop là, je prends la main. Merci.
Sinon, je t'intéresse si tu as d'autres prises pour le.
Alors, tout d'abord, merci M. Bechler, merci Philippe pour votre invitation. Ça s'est débranché. À m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, on a beaucoup entendu parler de forces terrestres, de la marine. Alors, à l'heure actuelle. Monsieur Louchet a parlé donc un peu de force aérienne, donc ça m'a fait bien plaisir. Donc moi je vais un peu défendre ma chapelle et pour parler de géographie militaire aérienne et notamment du fait aérien et de ses rapports avec la géographie. Hop là. Alors le plus souvent les études de géographie militaire, et je crois que la journée, cette journée en est une preuve, abordent de manière assez majoritaire, les forces terrestres, la guerre en montagne, la guerre en plaine, on pourrait parler également de la guerre en milieu désertique ou autre, mais sur le fait aérien, pas grand-chose. Bon, alors, première explication serait que l'arme aérienne est une arme jeune, en comparaison à l'armée de terre ou bien que la marine. Donc, voilà. Une autre raison serait, et celle-là, elle est propre aux grands penseurs de l'armée aérienne, hein, qui sont assez nombreux et qui apparaissent, on va dire, avec Clément Ader au début du siècle. Mais je pourrais également citer le général Douai, Giulio Douai, italien, donc, qui a conceptualisé cette idée du bombardement stratégique, petit aparté rapide, bombardement stratégique comme instrument politique pouvant faire plier les États. C'est ce que les anglo-saxons tenteront d'appliquer sur l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Le général Billy Mitchell, qui est un général américain, qui est également qui est considéré comme l'un des fondateurs de l'US Air Force, de par sa pensée, ses écrits et son action, et j'en passe des meilleurs hein, au niveau des grands stratégistes de l'air, tous ont la même, ont une communauté de vue. C'est de voir le milieu aérien comme un milieu lisse, homogène, dénué d'obstacles, quelque chose qu'on traverse de manière aisée. Voilà. Donc, par opposition au milieu terrestre, où on a des montagnes, on a le réseau hydrographique, on a les voies terrestres, où justement le milieu terrestre, enfin la géographie terrestre est presque une contrainte, le milieu aérien, rien, c'est lisse. Je reprends un dernier exemple, je reprends le concept de l'armée d'air de 2008. Mes camarades aviateurs n'hésitent pas à dire justement que c'est un milieu qui est dénué d'obstacles et homogène, donc enfin, un ensemble de gaz homogène. Voilà. Deux points là-dessus, et ensuite j'aborderai ma présentation. Alors, pour nous, les aviateurs, et cela depuis, M. Pernaud connaît bien ces questions sur la création de l'armée de l'air et comment on a essayé d'avoir notre propre indépendance vis-à-vis de nos camarades de l'armée de terre, de la marine. Le côté milieu lisse, c'est un argument de vente pour les aviateurs, premier point. C'est de dire, voilà, si vous, l'armée de terre, vous vous retrouvez confronté donc à du relief ou à des fleuves, vous, les marins, ça peut être une forte houle, ça peut être les côtes également, devant passer par des isthmes ou bien des détroits. Nous, les aviateurs, rien ne nous empêche de passer. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, c'est quelque chose qui moi, en tant que géographe, m'horripile, parce qu'il n'y a pas plus cloisonné, plus fractionné, mité que le milieu aérien. d'abord fractionnés et séparés par volume, petit bout, par surface, par volume, on va plutôt parler en volume parce qu'on est dans la troisième dimension, par d'abord des facteurs de géographie physique, donc c'est ce qui constituera mon premier point, c'est mon slide, par ensuite des facteurs de géographie humaine, ça sera l'objet de mon second point, et enfin par ce que j'appellerais une géographie de l'adversaire finalement, une géographie de la menace, par la répartition spatiale. Alors, vous me direz, c'est du bon vieux bon sens paysan, mais il n'empêche que par une géographie spatiale des forces adverses, qui impacte directement la manière dont le milieu aérien est organisé au niveau spatial. Alors, les facteurs de géographie physique, tout d'abord. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, je vous explique de manière, sachant que le temps nous est compté. Plusieurs grands facteurs, la distance d'abord, Philippe Boulanger en a parlé ce matin, puis d'autres collègues également, Castex en parle, il parle des positions, il parle des distances. Pour moi, à mon sens, c'est un premier facteur de géographie physique. Le relief, on verra comment, et par des exemples, je fonctionne beaucoup par exemple, vous verrez, le relief peut impacter de manière indirecte les opérations aériennes, il s'agit quand même bien de ça. Le climat, bien sûr, bon, ça c'est connu de tous, voire même la géologie. Donc je commence par la distance. À la différence des forces terrestres et navales, enfin dans une moindre mesure bien sûr pour les forces navales, les forces aériennes sont des éléments transitoires. Dans l'espace, on a mieux de prédilection dans l'espace aérien. Enfin, bon, tout ce qui monte redescend, par définition. Bon, voilà. Donc ils ne font que passer. Donc l'avion et la manière de l'employer, donc borné dans le temps, dans la distance, mais est borné par les limites de la machine et par les limites de l'homme. Limite de la machine, ça peut être la consommation d'huile. Arrive un moment, les moteurs ne tournent plus puisque toute l'huile a été consommée, comme pour une voiture. La limite humaine, ça soit ni plus ni moins que la fatigue. Bon, alors, il existe des choses qui permettent, un bombardier lourd peut emporter plusieurs équipages qui tournent. Bon. Cette particularité de cette notion géographique, de ce facteur, a un impact direct dans le sens où elle conditionne par le rayon d'action, mais également par l'endurance, la manière dont est employée l'armée aérienne. Donc c'est un facteur direct. Par exemple, là je me situe en 1950, donc début de la guerre de Corée, donc on mettait tous en tête un peu le déroulé. Donc offensive nord-coréenne, les Américains sont dans l'obligation d'effectuer des évacuations aériennes de Séoul. Pour pouvoir protéger ces évacuations en cas d'attaque nord-coréenne, ils mettent en place donc une couverture de chasseurs P-80, le Shooting Star, qui arrive directement du sud du Japon, de la base d'Itazuki. Seulement, au vu de la distance parcourue, plusieurs centaines de kilomètres, ces avions, lorsqu'ils arrivent pour protéger cette manœuvre, ils se retrouvent avec juste 15 ou 30 minutes simplement de qui est le minimum, voire qui même pourrait empêcher toute action en cas de combat au Orient, où là, la consommation d'essence est quand même beaucoup plus importante, enfin, de kérosène en l'occurrence. Donc voilà, là, on a un exemple où la distance impacte directement la manière dont peut être employée l'aviation. Alors, vous me direz, les évolutions technologiques, je pense au ravitaillement en vol notamment, permettent d'accroître cette endurance, permettent d'accroître le rayon d'action. J'en veux pour preuve le B-2, par exemple, donc bombardier furtif américain. Alors, vous allez tous en forme d'aile volante furtif à 2,5 milliards de dollars l'unité, il faut le savoir. En 99, fin des années 90, le B-2 était capable et a effectué des missions de bombardement en partant de sa base de White Mine dans le Missouri. Il tapait Belgrade et il revenait sur sa base de départ sans atterrir sur aucune base. Tout ça, bon, bien sûr, grâce à un emport de carburant plus important, mais également grâce au ravitaillement en vol. On verra par la suite le rôle du ravitaillement en vol dans d'autres opérations. On verra après. Je passe sur d'autres exemples de la distance. J'en viens à l'altitude. L'altitude est également déterminant et impacte fondamentalement l'emploi de l'aviation militaire. Tout d'abord, ça impacte de cette manière où... le plafond, ce qu'on appelle le plafond, c'est l'altitude maximale à laquelle peut opérer un avion militaire. Alors, je n'entrerai pas non plus dans des considérations, on va dire, techniques, parce que c'est une question de densité de l'air. Plus on vole haut, et moins un avion peut avoir de portance, d'accord. Plus on vole bas, plus la densité de l'air est importante, mais en même temps, plus on vole bas, plus la consommation de l'avion est importante parce que freinée par la densité de l'air. Voilà. Alors, voilà, juste pour vous poser un peu les termes du schéma. Donc l'altitude est impactant, entre guillemets, a une influence sur les opérations aériennes. Surtout l'altitude, et cela depuis, on en a parlé tout à l'heure, depuis la Première Guerre mondiale, l'altitude dans les opérations de bombardement et de reconnaissance est surtout l'un des meilleurs moyens d'être, non pas invulnérable, ce n'est pas le terme, mais de peut réduire sa vulnérabilité en volant haut. On a parlé ce matin de l'affaire Gary Powers en 1960, avec l'exemple de l'avion le U-2, le U-2, qu'on a vu également. C'est sa principale plus-value, c'est d'être capable de voler très très haut, donc de ne pas être atteignable par des missiles ou par les défenses défense antiaériennes. Autre élément intéressant à observer au niveau de l'altitude, cette fois-ci, c'est au niveau tactique, dans la manière dont les avions sont employés. Pierre Klostermann, donc, qui a écrit Le Grand Cirque, hein, qu'on a tous lu étant gamin, Pierre Klostermann racontait qu'aux commandes de son avion Tempest, qui était un chasseur-bombardier, qui était, alors, non pas plus avancé que le Messerschmitt 109, mais qui était plus puissant, allait plus vite que le Messerschmitt 109, virait beaucoup mieux à moyenne altitude. En face, les Allemands, qui étaient équipés de ME-109, le savaient. Mais eux, leur avion virait beaucoup mieux à basse altitude. Donc, tactiquement, lorsqu'il y avait confrontation d'avions anglais Tempest et d'avions allemands Messerschmitt 109, les Allemands tentaient d'attirer les Anglais à basse altitude pour pouvoir prendre l'avantage du fait de leurs caractéristiques, avec l'aérodynamisme, une puissance moteur, et donc jouaient sur ces notions d'altitude. Donc, tactiquement, voilà, ils jouaient là-dessus. J'avance. Outre donc la distance et puis l'altitude comme facteur géographique, le climat, bon, c'est sûrement le facteur le plus connu. Je suis encore très étonné de voir que chez les penseurs militaires, il n'y a quasiment aucune réflexion de géographe. Hein. Bon, voilà, je fais une parenthèse, j'en parlerai après. Alors, le climat est peut-être le premier facteur ayant été pris en compte par les aviateurs militaires dès le début des années 1910, dès 1909. Lorsque sont rédigés, je pense notamment à l'inspection générale avec Hirschauer, l'inspecteur général aéronautique militaire, les premiers rapports qui reviennent, c'est se dire, bon, au niveau du climat, il faut qu'on apprenne à nos pilotes à savoir quand voler, à quel moment dans la journée, à quel endroit, parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'à cette époque, les premiers avions sont faits de bois et de toile, et que, par temps de pluie, par vent, un fort taux d'humidité, bon, il fallait être costaud quand même pour pouvoir s'envoler sur ce type d'appareil. Donc, c'est un impact flagrant. Mais pas que pour les aéroplanes. En octobre 1917, lors d'une opération de bombardement menée par les Allemands avec leur flotte de Zeppelin, plus de la moitié de leur flotte de Zeppelin est par au tas du fait d'une tempête. Là encore, le climat joue un rôle fondamental sur les opérations aériennes. Un exemple que moi je trouve très intéressant, cette fois-ci, on est dans le domaine de la combinaison. On a le climat, mais on a également des considérations politiques. Là, j'avance un peu dans le temps. Nous sommes lors de l'opération Rolling Thunder, débutée en 1965, donc guerre du Vietnam. Donc, pour pouvoir pousser les Nord-Vietnamiens à négocier, les Américains décident de mener une campagne aérienne de grande envergure, avec leur bombardier B-52 assez bien connu. Sauf que, voilà, Nord-Vietnam, ils arrivent aux opérations lancées au moment de la mousson. Voilà. Au résultat, les conséquences sont les planificateurs des forces aériennes américaines se disent, bon, on va peut-être bombarder plus en fin de journée, au moment où il y a moins de brume et au moment les conditions climatiques sont les plus appropriées. Facteur climatique. À cette époque, Lyndon Johnson, qui est donc président des États-Unis, décide de OK, donc il valide ces bombardements, mais il veut éviter par tous les moyens d'avoir des dommages collatéraux, donc que les cibles civiles soient frappées dans une ampleur trop importante. Donc, il définit, avec son cabinet, des corridors aériens. Il dit voilà, pour éviter de taper tel centre, les bombardiers passeront toujours par ce corridor aérien pour aller frapper ses cibles. Donc, alors je parle de combinaison, je trouve ça très intéressant, parce que ce qui fait que on se retrouve dans une situation où l'adversaire, les Nord-Vietnamiens, qui ne manqueront pas quand même, grâce aussi avec leur conseil soviétique, de mettre en place leur défense à ce moment-là, avec un schéma stéréotypé où on saura à quel moment, fin de journée, à quel endroit, donc espace-temps, passeront les bombardiers. Bon, le taux d'attrition a été extrêmement important durant cette opération qui s'est finie en 68. Il y a un rapport de la CIA qui a été déclassifié il y a quelques années de ça, qui parle très clairement en noir sur blanc d'échec stratégique. Bon, il y a bien sûr d'autres facteurs, mais voilà, c'est intéressant de noter justement la combinaison de ces deux éléments. Alors, je passe sur les exemples de température, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire avec les combats en Afrique du Nord où les avions ne pouvaient pas décoller du fait de trop fortes températures. Là encore, on a des notions de physique, donc de géographie physique finalement, où le fait d'avoir une forte température dégrade la portance et donc dégrade les capacités en vol des avions. Aujourd'hui encore en Afrique, hein, les avions de transport français, voire même d'autres nations, s'ils veulent décoller à pleine charge, décollent soit très tôt le matin, soit en début de soirée. Parce que s'ils doivent décoller en journée, l'emport utile, ils doivent la diminuer, parce que sinon ils ne décollent pas. Voilà, donc encore un facteur, la géographie physique. Plus intéressant à mon sens, parce que là, moi, je parle depuis tout à l'heure de contraintes, c'est de voir comment les caractéristiques climatiques sont employées en tant que vecteur d'armement. Là, je passe à ma slide. Je pense notamment à l'opération au projet japonais Fugu. Je trouve ça extraordinaire, j'ai découvert lors de la réalisation de ma thèse, je trouve ça génial. Alors le projet Fugu, c'est donc un projet mis en place par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, à base de ballons, non, c'est très étonnant, enfin, c'est intéressant. Donc, alors ces ballons sont gonflés à l'hélium, on leur a adjoint donc, des bombes antipersonnelles, des bombes incendiaires, et le principe est le suivant, ils sont lâchés donc. Oh là, attendez, bougez pas. Dans l'autre sens. Bon. Oui, j'ai fait monter le suspense. Ça y est. Et j'y suis. Donc, ils sont lâchés pardon, de la côte est du Japon à Honshu. Et là, le facteur géographique, c'est le jet stream. Le jet stream, donc, ces ballons sont lâchés à plus de 15 000 mètres, voire même plus. Entre le mois de, je dis pas de bêtises, le mois de novembre 44 et avril 45, au moment où le jet stream est le plus fort. Et donc voilà, ils se servent du jet stream pour que sur un cycle de 3 jours-nuit, qui correspond à environ 10 000 km, que ces ballons, qui au bout de ce cycle, sont directement sont programmés pour pouvoir exploser et larguer leurs bombes sur le territoire américain. Voilà, là on a un exemple très intéressant où c'est le facteur climatique qui est utilisé comme vecteur d'armement. Voilà. Alors, au résultat, de mémoire, il y a 9000 ballons quand même qui ont été envoyés entre novembre 1944 et avril 1945. Sur les dommages, j'ai en tête ce document, il est en ligne, vous pouvez le trouver sur Internet. Il y a une maîtresse d'école avec 2-3 enfants qui, ne savent pas ce que c'est, touche à une bombe trouée qui explose à la tête, mais il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Par contre, l'impact psychologique, là, a été intéressant, parce qu'un peu comme pour les Britanniques, les Américains qui étaient très, bon, on ne parlera pas bien sûr d'Hawaï, qui est un cas particulier, mais ils sont touchés. Et donc, les autorités américaines mettront quand même le couvert sur cette affaire pour pouvoir, justement, éviter que ce ne soit pas trop utilisé à des fins de propagande. Juste pour finir, les Américains ont prononcé cette même idée dans les années 50, depuis l'Europe de l'Ouest cette fois-ci, et ils équiperont des ballons sondes gonflés à l'hélium d'appareils de photographie. Donc l'appareil, même principe, jet stream, on soit l'Union soviétique, les ballons sont récupérés au Japon pour pouvoir exploiter les films. Donc là, on est toujours dans la récupération de films avant l'ère des satellites, mais l'idée reste la même, hein, on n'a rien inventé. Donc, alors, pour le climat, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses d'intéressantes. Là, j'en viens au relief, cette fois-ci. Le relief, alors, bon, petit rappel historique, j'en arrive encore au début de l'aviation militaire. Il est certain qu'avec des aéroplanes étant capables de décoller et de voler à l'altitude à peine peut-être d'une cinquantaine de mètres, d'une centaine de mètres, au tout départ, bien sûr, le relief joue un rôle vital. Bon. Des exemples, on n'a qu'à penser aux écrits de Saint-Exupéry qui racontent la difficulté à passer au-dessus de la cordillère des Andes. Voilà, le relief a un impact important. Aujourd'hui, on pourrait penser que des avions de combat, des avions militaires, des bombardiers, des avions de reconnaissance qui volent à des altitudes, comme encore une fois le U-2, hein, 25 000 mètres, le relief n'a plus aucun rôle. On en est complètement... c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais parce qu'il y a un impact indirect. Cet exemple est le suivant. Là, nous sommes donc au début des années 2000, dans le cadre des opérations en Afghanistan. Et donc, la France décide de contribuer à l'opération Enduring Freedom aux côtés des Alliés, donc des Américains, et décide d'envoyer donc des Mirage 2000D français, qui sont des chasseurs-bombardiers de l'armée de l'air, et qui sont donc postés à Manas, sur la base de l'arène de Manas, à côté de Bishkek, qui est la capitale donc, du Kyrgyzstan. Alors, pour bien comprendre un peu ce point, il faut le Mirage 2000D donc, est un chasseur-bombardier, qui a vocation donc, à bombarder, et qui a surtout la particularité d'être monoréacteur. Il n'y a qu'un seul réacteur. Le problème avec un monoréacteur, c'est que lorsque celui-ci est en panne, et qu'on ne peut pas le redémarrer, l'équipage n'a pas d'autre choix que de s'éjecter. Le biréacteur, le deuxième réacteur, permet de prendre le relais, puis de continuer un peu à voler quand même. Voilà. Alors, je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que, donc, décidément... Voilà. Donc, départ de la base de Manas pour les Mirage 2000D pour se rendre sur le théâtre afghan. Au vu des échelles, le plus simple, ce serait d'y aller en ligne droite. Sauf que non. Non, pourquoi ? Parce que, au niveau de la planification et des vols, on se rend compte que, après avoir examiné des cartes, bien sûr, parce que là, on découvre également le théâtre d'opération, qu'au niveau du Tadjikistan, il y a une zone montagneuse qui culmine à plus de 4000 mètres. 4000 mètres, c'est très important. Ils se rendent compte que si un équipage français a des soucis et doit s'éjecter au-dessus de cette zone pour les récupérer, on ne peut pas, parce que des hélicoptères capables de monter à plus de 4000 mètres, il n'y en a pas. Et surtout que là, on parle d'hélicoptères russes qui ont cette rugosité, bon, qui ont quand même une certaine capacité, mais ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils ont bien sûr pensé, parce qu'ils pensent à tout, à envoyer en cas de problème des parachutistes, des rescue paratroopers, enfin des parachutistes, médecins, infirmiers, récupérer les équipages. Il faut s'imaginer un saut en parachute au-dessus de montagnes enneigées. Enfin, bon. Donc finalement, ils décident mais simplement, et là, c'est du bon sens, de contourner cette zone rouge. Donc là, on a un exemple flagrant où le relief impacte directement les opérations aériennes, impacte directement la manière dont on emploie l'armée aérienne, parce que les Mirage 2000D sont obligés donc, de faire un détour de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui a pour conséquence... qu'une fois arrivés sur le théâtre afghan, ils doivent se ravitailler en vol, donc perte de temps, donc rallonger la durée de vol, et donc, in fine, diminuer le temps de présence sur le théâtre afghan. Bon, voilà, on peut se dire que les montagnes, pas de conséquences, pas d'impact sur les avions modernes, ben si. Je passe... Alors, très rapidement, vous avez tous en tête l'éruption, ça je vais lire le nom, parce que l'éruption du volcan islandais en mai 2010, alors, le Eyjafjallajökull, bon, je ne sais pas si quelqu'un peut faire mieux. Donc, je vais accélérer, monsieur le professeur. Là, un exemple que je trouve assez intéressant de géologie, simplement, voilà, là on est en mai 2010, explosion, éruption de volcan, dégagement de poussière volcanique dans l'atmosphère. Voilà, ça bloque tout, complètement la circulation aérienne en Europe. Concernant l'armée de l'air, au-delà d'une ligne Metz-Mulhouse, plus de vol, plus de sécurité des vols, bon, de toute façon, il n'y a pas d'avion à contrôler, mais on arrête tout vol, parce que la poussière, du fait de la granulométrie, abîme les pales, les aubans des réacteurs et des compresseurs. Voilà. Donc là, le Pinatubo, c'était la même chose, hein, il y a plusieurs décennies, où là, il y a carrément une base qui a été rasée. Mais voilà, donc là, on a un exemple où la géologie a un effet direct sur l'emploi de l'arme aérienne. Comme je disais tout à l'heure, donc voilà, à la fois le climat, le relief, la géologie, les températures, à mon sens, tous ces éléments démontrent que la géographie physique et ses facteurs conditionnent, façonnent une forme de géographie militaire aérienne, une géographie de l'air, et qu'encore une fois, qui n'est pas au final si lisse et si homogène que ça. J'en viens maintenant à l'influence de la géographie humaine sur les opérations militaires. Là encore, le sujet serait très vaste parce que l'acceptation large de la géographie humaine, hein, c'est de voir l'activité humaine à la surface terrestre, Alors, je ne suis pas un puriste, hein, j'ai fait une définition très très large. Donc vous imaginez bien que les facteurs seraient, sont d'ailleurs extrêmement nombreux. Je me suis penché sur deux grands facteurs qui sont les espaces aériens souverains et les zones interdites, les zones réservées qu'on peut observer. Et là, vous verrez par la suite des cartes aéronautiques, on peut observer au-dessus du territoire métropolitain, mais également au-dessus des théâtres d'opération. Donc, les espaces souverains, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la communauté internationale constate qu'il est nécessaire de disposer d'une réglementation aérienne. Donc là, on aboutit au traité, à la Convention de Paris, pardon, en octobre 1919, qui consacre le principe de la souveraineté complète et exclusive des États au-dessus de leur espace atmosphérique. Calqué sous les frontières terrestres. Dès lors, donc, la troisième dimension connaît une forme de délimitation horizontale qui, bien qu'il soit immatériel, n'en demande pas moins, extrêmement contrôlée et surtout infranchissable dans certains cas. Alors, je passe rapidement sur mon introduction et je passe à l'exemple qui illustre ce point. Là, nous sommes en 1986, le contexte, alors c'est l'opération Eldorado Canyon qui est une opération de raid, on va dire peut-être de rétorsion, de coercition vis-à-vis du régime libyen, pour l'historique rapide, hein, quelques mois auparavant, une bombe explose dans une boîte de nuit à Berlin, et durant cet attentat, plusieurs marines américains sont tués. Il s'avère que l'attentat a été téléguidé par le régime de Muammar Kadhafi, et donc les Américains décident de riposter. Alors, encore une fois, le beau vieux principe de la ligne droite, on pourrait se dire que, bon, on parle, donc, Royal Air Force, c'est la base aérienne de départ des bombardiers F-111. Donc, afin de pouvoir taper Tripoli, les Américains demandent donc à la France, à l'Espagne et à l'Italie, l'autorisation de survoler leur espace aérien, le chemin le plus court. On se remet dans le contexte de l'époque, 1986, guerre en Irak, relations plutôt tendues avec Téhéran, des attentats sur Paris. Bon, je caricature peut-être un peu, mais la France et d'autres pays au point se disent, bon, on ne va pas trop non plus titiller Kadhafi, sachant qu'il est quand même assez téléguidé par Téhéran, mais ça c'est autre chose. Donc les Américains qui doivent frapper Tripoli, pardon, décident quand même de mener l'opération. Pour ce faire, n'ayant pas l'accord de ces pays, qui finalement, dans l'image, mettent en place une forme de relief, mettent en place une montagne infranchissable, se voient dans l'obligation de contourner ces pays, donc en passant par au large du Portugal, de rentrer par le détroit de Gibraltar, donc ce sont des eaux internationales, donc l'espace aérien qui est au-dessus est aussi considéré comme étant, entre guillemets, libre, pour pouvoir frapper Tripoli. Alors, sans rentrer dans les chiffres, juste quelques notions. Là, on a affaire à une opération qui dure 12 heures, donc qui est énorme, parce que les avions qui sont partis d'ici, bah, ils y reviennent également par la suite. Il y a environ, décidément, j'ai des gros doigts, plusieurs zones de ravitaillement en vol. C'est-à-dire que le ravitaillement en vol joue un rôle assez, et permet de le faire. Voilà. Donc, cette fermeture d'espace aérien a complètement bloqué une opération, mais malgré tout, les Américains ayant une flotte de ravitaillement, de ravitailleurs en vol assez conséquent à cette époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, ont quand même pu mener leur opération. Autre exemple, dans le cadre des espaces souverains, nous sommes en 2008, Israël veut frapper, c'est mi-2008 de mémoire, oui, veut frapper les centrales nucléaires iraniennes. Les Américains, qui sont donc en Irak à cette époque, n'étant pas, alors d'accord, c'est peut-être pas le terme, mais n'étant pas emballés par cette idée, ne souhaitant pas voir les Israéliens effectuer cette opération, leur ferment tout simplement l'espace aérien irakien. Et donc, les Israéliens sont dans l'obligation d'annuler leur opération. Là, encore une fois, c'était vraiment une pression. Et finalement, dans un espace lisse et sans obstacle, on a créé directement un obstacle, évitant justement, empêchant plutôt une opération aérienne. Alors, je passe très rapidement, parce qu'il y avait l'exemple du raid de l'armée de l'air du 13 janvier 2013, qui est le raid le plus long de l'histoire de l'armée de l'air. Là, ce n'est pas un refus, mais c'est plus une question de tempo. C'est-à-dire que l'ordre est donné par le président de la République et par son cabinet d'effectuer des frappes. Donc, très rapidement, les rafales partent de Saint-Dizier. Et là encore, bon, ayant des accords quand même avec l'Algérie, on serait tenté de croire que le chemin le plus court serait de passer par l'Algérie. Sauf qu'au vu du tempo, et là on parlait de temps dans la géographie militaire, et là qui a un impact direct, l'accord de l'Algérie d'ouvrir son espace aérien à ce vol français n'est pas encore arrivé. Et sauf que la présidence a dit qu'il faut y aller. Donc, pas le choix. Et là encore, le ravitaillement en vol joue un rôle considérable. Les rafales françaises sont obligées de faire le bon tour pour frapper au niveau de Gao et ensuite atterrir à N'Djamena. Là, on parle, c'est d'un vol de 9h40 et plus de 6000 km. Donc là encore, les espaces aériens souverains jouent un rôle extrêmement important. Bon, et puis des exemples, il y en a encore à Froisson. Je continue. Après avoir vu les espaces aériens souverains, je vous parlais des zones de restriction, des zones réservées, des zones interdites. Là, vous avez en face de vous une carte de radionavigation haute altitude, donc une carte dédiée aux appareils militaires. Il y a des cartes aéronautiques pour les appareils civils et des cartes aéronautiques pour les appareils militaires. Là, c'est une carte pour les appareils militaires. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que lorsque je vois une carte de ce type, si je la compare à une carte de milieu montagneux où, bon, il n'y a pas grand-chose à envier sur la complexité de l'espace. Et encore une fois, là, on a un bel exemple de ce que peut être une géographie aérienne, cette fois-ci. Ben, militaire aérienne, parce que c'est appliqué aux militaires, mais c'est parlant. Alors, rapidement, alors parce que bon, il y a la légende à côté, il faut savoir qu'au-dessus de l'espace, dans l'espace aérien français, les avions de combat sont limités. Ce n'est pas qui peut voler à tel endroit, vole à tel endroit. Les centrales nucléaires, Paris, les ouvrages d'art, par exemple le viaduc de Millau, il est interdit aux gens de combat de passer à moins de 1800 mètres au-dessus du viaduc de Millau. Là, la géologie aussi, si on combine les effets, la géologie joue aussi un rôle intéressant, parce que certaines régions montagneuses, voire même de moyenne montagne en France, alors je n'ai pas d'exemple peut-être qui me viennent tout de suite, sont interdites de survol à certaines altitudes. Pourquoi ? Parce que les vibrations et l'espace de l'air déplacé peut provoquer des éboulements. Voilà, donc ça c'est intéressant. Les élevages de poulets. Alors, moi, j'étais le premier à me marrer. Les élevages de poulets, c'est une blague. Non. Pourquoi ? Parce que... C'est pour ça que je vous dis que cet espace est complètement mité. Moi, je trouve ça extraordinaire à étudier. Les élevages de poulets, parce qu'il y a eu un précédent où les pilotes qui sont quand même des gagueurs, passage à basse altitude au-dessus de l'élevage de poulets, l'armée de l'air qui reçoit un coup de fil de l'exploitant, écoutez, j'ai les 3/4 de ma production, crise cardiaque, plus de poulet. Non, c'est un fait avéré. Donc, les élevages de poulets ont un impact, parce que c'est une géographie humaine, finalement, c'est une activité humaine, je parlais peut-être d'une géographie agricole, ont un impact sur le mitage de l'espace aérien. Donc, et j'en passe, c'est des meilleurs. Cet espace aérien est complètement fractionné par l'activité humaine. Alors, je passe rapidement, et j'en finirai sur un dernier exemple, parce que là, nous sommes finalement en temps de paix au-dessus d'un espace aérien souverain, qui est donc l'espace aérien français, mais au-dessus d'une zone de guerre et d'un théâtre d'opération, la problématique reste la même. Sauf que les inputs, si je puis dire, les intrants, diffèrent. L'espace aérien, au-dessus d'une zone de guerre, est également fractionné, encore une fois, en volume. Et là, je n'ai pas précisé, mais là, on a une carte finalement en deux dimensions. Il faut se mettre cette carte en trois dimensions, en se disant qu'on a des zones, une zone A qui est superposée par une zone B, d'une plus grande surface, d'une zone C, enfin, c'est une complexité, donc c'est un labyrinthe finalement, c'est presque un labyrinthe, il faut pouvoir s'y diriger. Au-dessus d'une zone de guerre, la problématique est la même, sauf que le droit est pris en compte, au-dessus de telle altitude, pas de vol. Pourquoi ? Parce que c'est la zone d'où tire l'artillerie. Un obus, enfin, obus contre avion, ça n'a jamais fait bon ménage, par définition. Ensuite, aux obus, pas les obus. ensuite, les activités, il y a des zones qui sont réservées au ravitaillement en vol. Il y a des zones qui sont réservées à l'emploi des drones. Il y a des corridors qui sont réservés pour que les raids allant bombarder puissent rentrer, mais avec d'autres corridors pour les raids de sortie. Bon, voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle des documents, ce qu'on appelle des ACO, des Air Coordination Orders. Ce sont des documents qui ont vocation, et là, alors ce ne sont pas des géographes qui font ces documents, mais ils ont une démarche de géographe, c'est-à-dire qu'ils pensent l'espace en trois dimensions, Et ils doivent, au regard de la capacité des avions, au regard bien sûr de la mission, au regard de l'effet désiré, au regard des cibles, au regard de la menace, j'en reviendrai un peu dessus très rapidement, pardon, ils doivent mettre en place un cheminement, un chemin, comme ça, et avec des zones sur différentes altitudes, et assigner des rôles à chacun. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, je souhaitais intéressant d'avoir un exemple, mais bon, voilà, je n'ai pas pu forcément faut aller chercher de vieillir. Et pour finir, et je passerai très rapidement dessus, pardon, sous cette idée de géographie, de géographie. Ah ben tiens, il a sauté le haut, c'est pas grave. Une géographie de la menace. Une géographie de la menace, pourquoi ? Parce que là, on l'a vu, l'espace aérien est compartimenté par la réglementation, finalement, pour éviter les risques de collision en vol, pour éviter que des poulets décèdent. Et oui, pour éviter des éboulements, voilà, l'espace aérien est fractionné par une réglementation finalement qui est aussi militaire dans le cadre des opérations. Mais là, c'est nous qui faisons notre géographie. Mais on peut également être confronté à la géographie de l'autre, à celle qui nous est imposée par l'adversaire. Là, je prenais juste un exemple qui est ce que j'appelle une géographie électromagnétique, qui est le fractionnement, hein, la mise en place d'une géographie du fait ne serait-ce même que des moyens de détection à radar mis en place par l'adversaire, auxquels on pourrait associer des moyens, décidément, auxquels on pourrait associer des moyens solaires, enfin, soit de l'artillerie, soit des missiles. Donc là, un peu pareil, hein, chaque fois, chaque vol, c'est finalement à tel niveau, descendre, passer à côté, contourner. On a une véritable géographie. Hein. Moi, je vois ça un peu comme un sentier en haute montagne, finalement. Les bulles de détection qui sont ici, hein, que j'ai schématisées, l'avion cherchant à pénétrer un espace cherchera à les éviter. Donc il essaiera de se créer un sentier pour pouvoir tenter d'éviter. Pareil, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais il y a ce qu'on appelle, il y a des cartes, alors non, ce ne sont pas des cartes d'interconnexion, mais d'intervisibilité, qui sont créées, qui sont mises en place notamment par les officiers de renseignement qui sont officiers dans les escadrons. Ces cartes d'intervisibilité, simplement, imaginez-vous des ronds, voilà, donc là on passe en 2D, des ronds, et ils ont pour vocation de faire en sorte soit de contourner des bulles de détection, soit de faire en sorte que l'avion assaillant passe le moins de temps dans ces bulles de détection. Et là encore, ils font de la géographie sans le savoir, parce que dans la majorité des cas, ils tentent d'utiliser le relief qui masque les zones radar pour pouvoir justement pénétrer le plus loin possible en visant le relief. C'est pour ça qu'on a souvent vu dans les films des bombardiers, des avions bombardiers, à fond les ballons, à fond de vallée, pour éviter d'être opéré. Le principe du vol à basse altitude très rapidement, je veux dire, il y a aussi une conséquence de ces moyens de détection qui ont évolué. J'arrête là. Voilà, donc comme vous l'avez compris, je pense que j'ai vraiment cherché à démontrer qu'il existe bien une géographie militaire aérienne. Je repense au professeur Hervé Couteau-Bégari, qui a dans son magnifique ouvrage de traité de stratégie parlé de géographie militaire. Et j'en avais discuté une fois avec lui. Je lui ai dit, écoutez, si vous me permettez, j'étais minot, hein, ce professeur, je ne suis pas trop d'accord. Parce que lui, il partait du principe, justement, que, encore une fois, que le milieu aérien étant lisse, dénué d'obstacles, une liberté complète, finalement, hein, c'est presque un peu le Dicard. Il disait bon, voilà, qu'il pourrait peut-être avoir une géostratégie aérienne, du fait notamment de l'impact des distances, mais qu'en soi, une géographie militaire aérienne, voilà, ne devrait pas forcément lieu d'être, parce que justement cet espace est un espace dénué d'obstacles. Ce qui m'a toujours fait penser que, et en soi, voilà, je n'étais pas d'accord. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de dire non, attendez, il n'y a pas plus géographique, finalement, de par ces facteurs que le milieu aérien. Et juste pour finir, quand on relie les grands stratégistes de l'armée aérienne, on se rend compte qu'ils n'étaient pas géographes. Quoi, voilà. Donc, ils étaient tous dans l'erreur et que c'est quand même bien dommage. Voilà, merci de votre attention.
Bien, merci, Michael. Alors, M. Béchler a dû nous quitter parce que, comme vous l'avez constaté peut-être en arrivant ici, il y a 3 colloques qui ont lieu dans cet hôtel particulier aujourd'hui. Et il a été invité à prendre la parole à 17h15. Cet après-midi, donc il nous a quittés comme vous l'avez constaté. On va ouvrir une période de discussion. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? François Cochet.
Oui, j'ai été passionné par votre approche. Parce que je suis un tout petit peu navigateur, mais en voilier, si vous voulez. Et ce que vous avez dit en fin me fait penser au métier de routeur dans les courses transatlantiques. Exactement. Hein, contourner les, en fonction de la météo, les cyclones, les dépressions, etc. Mais je reviens plus sérieusement sur ce que vous avez dit sur cet espace lisse, sans obstacle, qui n'en est bien évidemment pas un. D'accord. Hein. Et en période de guerre, je crois que ça a des conséquences évidentes. Parce qu'en période de guerre, l'ennemi, bien entendu, se débrouille pour que l'espace soit encore moins lisse, hein, avec sa DCA, avec sa flak. Et je pense à une étude qui avait été menée, à mon souvenir, par l'armée de l'air américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, à propos des missions donc sur la Ruhr notamment, où la densité de feu était telle, hein, de la flak, l'efficacité de la flak était telle, concept d'ailleurs qu'on retrouve au-dessus de Dien Bien Phu, hein, où les Bearcats qui viennent de Hanoï n'ont que 15 minutes d'action au-dessus de la plaine. Bon. Mais la densité de feu était telle qu'il semblerait que 60%, ce qui est énorme, des bombardiers larguaient leurs bombes avant la cible, pour ne pas être pris à partie directement par la flak. Donc là, on est dans une géographie aérienne qui a des conséquences directes, totales, majeures sur ce qui se passe au sol, sur le carpet bombing des Américains, etc. Donc c'est passionnant. Merci.
Jean-Yves Puyot.
Deux petites remarques pour Michael. Au bout, en 1919, un personnage qui s'appelle Paul Descombes avait proposé de planter une bande boisée de Dunkerque à Collioure de 500 mètres de large sur la distance. L'objectif, c'était d'apporter 500 000 hectares de forêt en plus et surtout de calmer l'aérologie nationale, ce qui, de mémoire, allait donner un avantage certain à notre armée de l'air par rapport à potentielle reprise des combats avec les Allemands. Donc là, à cette époque-là, l'aérologie, c'est fondamental. Bon, il n'y a pas eu de suite. Et après, juste une petite anecdote. Je suis surpris, cette histoire de poulet, là, parce que je voudrais bien voir les cartes des alentours de la base aérienne de Mont-de-Marsan, parce que le pays est riche en poulets de Saint-Sever, et je me demande comment ils font. Et pour terminer avec les gallinacés et autres animaux, dans la région, c'est surtout la cohabitation entre les hélicoptères, l'école de la LAD de Dax, avec la période de chasse à la palombe, où jadis les pilotes s'entraînaient ensuite une DCA à coup de spécial palombe. Et il y a eu quelques affaires retentissantes, mais ça remontait déjà. Voilà, c'est tout.
Alors, merci. Alors, juste quelques éléments justement, par rapport à Mont-de-Marsan. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est l'un des éléments que je trouve le plus intéressant, parce que jusque-là, on était plutôt, ce que j'ai exposé dans l'idée que le facteur géographique influence les opérations aériennes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'action aérienne produit des pays du paysage, fait de la géographie dans le sens où produit des paysages, des milieux, influence directement. On est dans un système d'interaction. Par rapport à la base de Mont-de-Marsan, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur les bases aériennes, ce qui est assez intéressant à étudier, j'en parlais ce midi, c'est de voir notamment les impacts économiques que peuvent avoir finalement les opérations aériennes, mais avec leur pendant les bases aériennes. Pendant des années, il faut s'imaginer que le long des axes d'atterrissage, je pense à Reims notamment, axes d'atterrissage et décollage, et c'est pour ça que je pensais à ces bases de poulet, ces terrains étaient inconstructibles. Pourquoi ? Parce que ce sont les phases délicates et un avion qui s'écrase sur une maison, ça ne fait pas bonne presse. Bon, maintenant que certaines bases ferment ou qu'il n'y a plus d'activité aérienne, ces terrains qui étaient pour certains même depuis la Première Guerre mondiale, parce que Dijon date même de la Première Guerre mondiale, Cazaux également, enfin il y a de très très vieilles bases, d'un coup certains terrains se retrouvent constructibles. Entre guillemets, mais on peut pouvoir y exercer une activité. Et donc, peuvent être également à prendre la valeur, notamment, je prends Dijon. Dijon a été complètement phagocyté par le développement urbain. Lorsque ça va fermer, il y a peut-être des choses intéressantes au niveau de l'immobilier, après avoir déminé et puis nettoyé le terrain. Parce que là, on a quand même deux guerres mondiales, hein, puis ça a bien bombardé. Mais à l'inverse, lorsqu'une base aérienne ferme, Il faut aussi s'en rendre compte, et là, je suis d'ailleurs regardé des chiffres, notamment des différentes agences immobilières, la chute du prix de l'immobilier. Vous avez des gens qui ont investi des maisons, vous avez d'anciens ou des gens du CRU qui ont, parce que les militaires bougent pour les officiers tous les 3 ans, pour les sous-officiers, tous les 6 ans, donc un gros turnover, des locations qui se font de bouche à oreille, une base qui ferme, ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien. Et souvent, en plus, les bases sont des endroits excentrés, comme on dit chez nous, au milieu de la Pampa, avec, si on prend l'Est, des zones qui sont économiquement sinistrées, il faut bien le dire. Donc, une base aérienne de 2500 personnes, auxquelles faut associer une femme, 2 enfants en moyenne, vous imaginez le volume de personnes que ça représente et les impacts socio-économiques que ça peut avoir. Alors, c'est aussi vrai pour les régiments. Mais voilà. Donc, voilà, les opérations de manière générale aussi, et les opérations militaires de manière générale, créent des paysages, altèrent des paysages, et sortir, c'est très intéressant à étudier. Voilà, enfin bon, je laisse la place aux questions. Merci.
Je poserai une dernière question avant de fermer cette première journée. À Nicolas Todorov, il a été question tout à l'heure des mémoires des ingénieurs géographes produits au XVIIIe siècle. Est-ce que ces ingénieurs géographes nous parlent de considérations stratégiques? Est-ce qu'ils donnent des informations précises, ou plus ou moins précises, sur les possibles débarquements en Angleterre? Ou alors ils se livrent simplement à des tableaux descriptifs, statistiques, sur le nombre d'habitants, sur la longueur des côtes? Que peux-tu nous dire sur ces mémoires des ingénieurs géographes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle?
En fait, non, généralement, il s'agit des mémoires qui se situent à l'échelle, on va dire, tactique, donc de la fortification, hein, alors que les considérations stratégiques relèvent généralement du niveau politique. C'est-à-dire qu'on trouve très peu d'informations sur la stratégie, disons, au sens propre du terme, c'est-à-dire le niveau d'intervention qui est étroitement lié aux politiques. Et ça, il y a des militaires qui, du génie, par exemple, qui donnent qui ont des idées là-dessus, mais généralement pas dans ses mémoires.
Hein. Est-ce qu'il parle du milieu? Il parle de l'exploitation du milieu, par exemple
Oui, bah, il parle du milieu, hein, bien sûr. Il parle bien du milieu, il le décrive et cherche à l'utiliser. En revanche, il y a peu de remarques, disons, d'ordre stratégique, donc d'échelle supérieure. Dans ce qu'on trouve. Mais c'est valable pour les marins aussi, c'est ce que je disais un peu. Des décideurs, que ce soit Louis XV ou Napoléon, tiennent un peu à l'écart les amiraux qui n'ont qu'une mission, on va dire, ça se situe au niveau opérationnel. Donc ils sont chargés d'effectuer telle ou telle mission. En revanche, il n'y a pas d'intégration, de stratégie, de réflexion plus large dans leurs remarques. Et là, à la limite, ce sont les officiers de l'armée de terre qui font des propositions, mais parfois au-delà de ce qu'on leur demande.
Nicolas, tu as montré une note de Napoléon où il dissertait sur ces bateaux qu'on ne peut pas envoyer au large de la Guyane, et disant qu'elle n'était pas datée, que tu pensais qu'elle était de 1803. J'essaye d'associer pourquoi Napoléon voulait envoyer des bateaux vers la Guyane, et je me demande si le gros problème de la Guyane pour Napoléon, ça a été l'occupation par les Portugais entre 1807 et puis bien après le traité de Vienne, et avant,
disons, quand on voit ça comme ça, et quand on regarde l'opération, on va dire la grande opération navale de Villeneuve aux Antilles, hein, c'était quoi? Qu'est-ce que ça a apporté? Bon, ça n'a pas apporté de débarquement en Angleterre, logiquement, on le sait, mais ça a donné une supériorité nette de la marine ou des escadres franco-espagnoles aux Antilles pendant un certain temps, où ils avaient, entre autres, on le sait peu parce que c'est peu dit, mais c'était dans les instructions, ils étaient normalement chargés de ravager toutes les possessions anglaises. Et là, s'il y a quelque chose qui a été retenu du côté positif pour les Français, c'est la dernière fois que les Antilles françaises et la Guyane auraient pu être et ont été ravitaillées. D'accord. Okay. Oui, et après, ils tombent.
C'est pas lié aux expéditions. Les Guyanes, c'est pas lié aux expéditions de 1802 et 1803 à Haïti avec le père
Non, non, parce que là, c'était là, je pense que c'est une note qui date de l'après, de, après la rupture de la paix d'Amiens. Ouais, ouais. Parce que là, il est bien question de, hein, de guerre. Oui.
Bien, je crois qu'il est temps de terminer. Merci à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui de leur intervention. Merci également des discussions que nous avons pu avoir. Donc, nous retrouvons demain matin à 9h pour reprendre le déroulement des thématiques. Merci encore.